Cette paracha contient un remèze, parce qu'on sait que c'est la Torah écrite qui a été donnée, mais la Torah orale également. Eh bien, on voit l'inclusion de la Torah écrite et de la Torah orale dans les 10 paroles, et cela apparaît en allusion dans un verset de Devarim où Moshe mentionne ces 10 paroles. Et, entre autres choses, il dit, et donc c'est Moshe qui parle dans Devarim, Raseret Adébarim, etc. Il vous promulguera son alliance qu'il vous enjoignait d'observer, à savoir les 10 paroles. Puis il les écrivit sur 2 tables de pierre. Voilà ce que rappelle Moshe dans Devarim. Et nous avons ici Et Berito Asher Tziva. Regardons les lettres finales de ces mots-là. Et Tav, Berito Vav, Asher Resh Tziva E. Eh bien, on a écrit en toutes lettres Torah. Et dans le bon ordre de l'orthographe du mot Torah. Ainsi, quand on nous dit que Dieu a donné la Torah, eh bien, la Torah est écrite en plus dans les lettres de cette promulgation. Eh bien, allons plus loin. Ces mêmes lettres, à partir de Et Berito, un peu avant, il est écrit Vayaged Lachem Et Berito Asher, etc. Asher Tziva. Eh bien, on voit ici que la Torah orale a également été donnée. Et on le voit parce que on a ici ce que l'on appelle, c'est un procédé, vous vous souvenez, dans une des toutes premières drachas, je vous avais expliqué un petit peu rapidement la boîte à outils des Mefarshim. Pour comprendre la Torah, eh bien, il y a un certain nombre d'outils qui font partie de la Torah orale. Et parmi ces outils, il y a les 10 lougim, c'est-à-dire que l'on part d'une lettre, on compte un certain nombre d'intervalles d'autres lettres, et on découvre des mots apparaître, et en général, ça n'apparaît pas au hasard dans le texte de la Torah, mais au moment où ce dilogue est pertinent. Et ici, on a Vayaged Lachem et Berito Asher, etc. Eh bien, nous avons troisième lettre du mot Vayaged, c'est Gimel. Première lettre du mot Gemara. Lachem, trois lettres plus loin, on a Mem, Gemara, hein, c'est la deuxième lettre du mot Gemara. Et Berito, on a le Resh ici. Et enfin, on termine avec le Aleph. On a Gemara écrit en dilogue dans le même texte qui nous parle Et Berito Asher Tziva, l'alliance donnée par Hachem. Voilà, donc cela méritait d'être dit, on ne le sait pas toujours. Et justement, le don de la Torah, c'est le phénomène, selon en tout cas Rabbi Eliezer de Modéine, c'est le don de la Torah qui a été à l'origine de la décision de Yitro. Parce que lorsque la Torah a été donnée, nos maîtres disent que cela a été entendu d'une extrémité du monde à l'autre. Et les rois païens ont tremblé au fond de leur palais. Il y a des discussions parce que d'autres maîtres disent qu'il y a d'autres phénomènes qui ont entraîné le fait que Yitro soit venu, mais le don de la Torah, en est un. Tout le monde, tous les peuples du monde ont entendu et compris que le Tout-Puissant était le seul Dieu et que leurs idoles n'étaient rien. Mais mettre en accord ces actes et ces convictions n'est jamais facile, et ça n'a pas été facile pour les peuples du monde qui comprenaient que leurs idoles ne valaient rien. Faut-il pour autant les abandonner et aller vers la nouvelle foi qui apparaît à l'évidence comme la seule pertinente dans le monde? Eh bien non, non, ils ont traîné les pieds. Seul Yitro a réagi d'urgence dès qu'il a entendu ce que Hachem avait fait en faveur des enfants d'Israël. Il est venu les rejoindre. Et on nous dit ici, c'est Rabbi David Hanania Pinto qui l'explique dans Parhat David, que c'est là un exemple à suivre. Comme quoi, il ne faut pas tarder à accomplir une mitzvah parce que, eh bien, sinon, on risque tout simplement d'être empêché. Le mérite de Yitro était si grand qu'une paracha porte son nom. Il faut quand même se rendre compte. Le nom de notre paracha, c'est justement Yitro, c'est-à-dire le nom de celui qui avait expérimenté toutes les idolâtries du monde, car il était à la recherche de la vérité. Eh bien, il a expérimenté toutes sortes d'idolâtries et toutes sortes de spiritualités jusqu'à ce que finalement il comprenne avec le don de la Torah qu'il n'y en avait qu'une qui tenait la route, qu'il n'y en avait qu'une qui était valable, et il a adhéré sans hésiter immédiatement. On nous dit que sur ce sujet, s'il avait traîné à mettre en conformité son action et sa pensée, eh bien, le Yetzirah l'aurait évidemment empêché de passer à l'action. Donc, dès que ceci a été fait, donc il a fait la visite à Moshe, puis il est retourné à Midian mettre de l'ordre dans ses affaires, et toute sa famille est venue avec lui pour se convertir. Contrairement aux autres familles de Midian qui avaient entendu aussi bien que lui, et contrairement à tous les autres peuples du monde. Nous apprenons de là qu'un miracle ne suffit pas pour convaincre. Quand bien même on vous montrerait un miracle, eh bien, d'une part, on ne se laisse pas convaincre par un miracle, pas forcément, mais même si c'est un miracle aussi important que l'ouverture de la mer Rouge, que le don des 10 commandements, etc., eh bien, beaucoup de gens l'ont entendu, ont su que c'était vrai, mais pour autant, ils ont refusé de reconnaître la direction divine en ce monde. On a donc Yitro, qui est évidemment un personnage central sur lequel il est intéressant de s'approcher, de comprendre. C'est le beau-père de Moshe. Et leur relation montre d'ailleurs un véritable modèle de respect familial. Comment se conduire avec ses proches au niveau de la famille? Eh bien, il y a un minimum, voire plus, de respect à la base de tout. Il ne s'agit pas forcément d'attendre ceci, d'attendre cela. Non, on se respecte et le reste, c'est autre chose. Et la relation avec Moshe, entre Moshe et Yitro, c'est justement une relation fondée sur le respect mutuel, sur la gratitude, comme on dit, le hakarat hatov, la reconnaissance quand des bonnes actions sont faites. Eh bien, parfois, on regarde non pas les bonnes actions qui ont été faites dans toute l'histoire familiale, mais on regarde juste ce qui manque. Ah, tel jour, tu n'étais pas là. Non, il y a une gratitude de Hakarat HaTov et surtout ce respect. Yitro nous l'enseigne, mais la relation entre Moshe et Yitro nous l'enseigne. C'était bien plus qu'un beau-père. C'était un maître. Il avait accueilli Moshe. N'oublions pas que Moshe était brisé. Il avait dû fuir l'Égypte où il était un prince et il a dû devenir un exilé sans plus rien autour de lui et sans même la certitude de pouvoir manger à sa faim. Yitro l'a accueilli, l'a formé et il a immédiatement reconnu la grandeur spirituelle de Moshe. C'est pourquoi il lui a non seulement donné un foyer où s'abriter, mais aussi un espace pour se construire et une épouse. Selon le Midrash, Moshe a beaucoup appris de Yitro. En effet, Yitro avait l'art de ce que l'on pourrait dire le leadership par rapport à son entourage. Il savait conduire son peuple et il était humble. Et donc la grandeur de Moshe, c'est d'abord, et on l'apprend là, d'abord la capacité d'apprendre de chacun. Certes, Moshe va devenir un maître en Torah, mais il a accepté humblement l'enseignement d'un ancien idolâtre, devenu juste, certes, mais d'un ancien idolâtre. C'est-à-dire que même le plus grand des prophètes peut apprendre d'un autre. Cela me rappelle, si vous le voulez bien, une petite anecdote, quelque chose que j'ai appris de mon grand-père Yosef Cohen, grand-père maternel, Zichrono Libraha. J'étais petit, hein, je devais avoir quoi, 11 ans peut-être. On marchait côte à côte à Beaune, en Algérie, ma ville natale, et on a croisé un balayeur des rues, comme on dit, un balayeur des rues qui avait son grand balai. Il n'y avait pas les machines hein, comme aujourd'hui. Il avait un grand balai, une pelle, une poubelle pour mettre les feuilles mortes, notamment à l'intérieur de cette poubelle. Et il m'a dit, regarde, regarde-le. J'étais un petit peu étonné. Je ne comprenais pas pourquoi il me demandait de regarder cet arabe qui travaillait pour la municipalité. Je l'ai regardé. Et il m'a dit, regarde, apprends. Bon, j'étais un petit peu étonné. J'apprends, mais j'apprends quoi? Attends. Mais tu regardes, on doit être capable d'apprendre de tout individu, de tout le monde. Regarde bien ce qu'il fait. Certes, il ramasse les feuilles, mais regarde comment il fait. Il va les coincer là, il va les prendre ici. Regarde la manière qu'il a de soulever sa pelle pour. Bref, et il avait complètement raison. J'ai tout de suite compris que derrière ce travail que je ne voyais même pas. Bon, j'étais pas grand, mais je ne voyais même pas ce travail-là. Je voyais quelqu'un qui ramassait des feuilles, c'est tout. Bien non, au-delà de ce ramassage de feuilles, il y avait toute une technique qui n'était pas une technique enseignée dans des grandes écoles, mais c'était une technique. Et de la même manière, regardons quand les bricoleurs viennent chez nous faire un travail, eh bien, des choses qui peuvent sembler simples ne le sont pas. Il y a toute une technique pour arriver à un résultat. Bref. Plus d'une manière un petit peu plus importante que cela, que cette anecdote, Moshe a appris humblement ce que son beau-père avait à lui apprendre. C'est aussi une rencontre, cette rencontre entre Moshe et Yitro, c'est une rencontre entre l'expérience humaine, celle de Yitro, celle des peuples, et la prophétie, entre l'humilité de Moshe et la quête de sens de Yitro. N'oublions pas, il a expérimenté toutes les spiritualités de l'époque, même erronées. Le premier converti par conviction dans le monde, c'est Yitro. Il a abandonné les honneurs de direction d'un peuple. Il a abandonné sa richesse, son statut, pour rejoindre le Ram Israël. Et il a dit ceci, Rata, maintenant, Yadarti, je sais, qui gadol Adonai mikol ha Elohim. Maintenant, je sais que Hachem est le plus grand de tous les dieux. Il a donc reconnu la grandeur divine avant même que le peuple d'Israël ne dise Naaseh v'nishma. C'est-à-dire avant même le peuple d'Israël, Yitro a reconnu cette grandeur de Hachem. Donc, le Midrash insiste sur le fait que Yitro avait justement testé toutes ces formes d'idolâtrie, mais il a su reconnaître la vérité. Yitro a sauvé aussi Moshe de l'épuisement, parce que Moshe, on connaît tous cette histoire-là, Moshe était en train de juger le peuple d'Israël un à un, l'un après l'autre, et c'était évidemment impossible à tenir sur la distance. Eh bien, Yitro lui a enseigné une méthode, il lui a proposé une structure judiciaire hiérarchisée qui faisait que n'arrivait devant lui, Moshe, que les cas les plus complexes. Le Pshat raconte donc une relation familiale et fonctionnelle entre Moshe et Yitro. Le drash montre une relation de respect et d'apprentissage. Le sod, lui, va, on est toujours dans cette quête du pardès, bien sûr, le sod va révéler une dynamique mystique entre deux forces spirituelles complémentaires. D'ailleurs, les Mekoubalim et les maîtres hassidiques indique que Moshe représente la révélation qui descend d'en haut. Itraruta d'Elyahela. Alors que Yitro représente au contraire la recherche qui monte d'en bas. Itraruta d'Elitata. Moshe reçoit la vérité directement de Hachem. Yitro recherche la vérité à travers les épreuves humaines, l'expérience humaine, les erreurs humaines. La Torah ne pouvait pas être donnée, nous disent les Mekoubalim, tant qu'un représentant des nations n'avait pas encore reconnu Hachem. Pourquoi? Eh bien parce que la Torah n'est pas seulement pour Israël, la Torah est pour le monde entier. Encore faut-il que les peuples ou les individus dans les peuples acceptent la Torah. Elle doit avoir, la Torah, un ancrage dans le monde entier, dans l'humanité entière. Et Yitro, prêtre des nations, a pu dire, maintenant, je sais, c'est la phrase que l'on vient de dire en hébreu tout à l'heure, maintenant je sais que Hachem est plus grand que tous les dieux. À ce moment-là, le monde entier a pu s'ouvrir à la révélation. La Torah a pu être donnée au monde. Moshe a pu monter au Sinaï et recevoir cette Torah qui était universelle, même si seuls quelques-uns l'ont acceptée. Selon la Kabbale, Moshe représente, correspond à Tiferet, c'est-à-dire la lumière droite, la vérité, la Torah. Yitro correspond à Malchut. Le monde, la réalité humaine, la réception. Leur rencontre va créer une unification. La lumière va trouver un réceptacle. Et c'est pourquoi Yitro arrive juste avant le don de la Torah. Il prépare le keli, le réceptacle. À ce propos, on a très rapidement, parce que le temps court, très rapidement, on remarque que Yitro se termine par un vav. Et dans le monde, il y a, disons, trois, quatre catégories d'êtres humains. Ceux qui se détachent des croyances erronées de leur époque pour s'attacher à Hachem, c'est bien entendu Abraham et Sarah qui allaient devenir les dépositaires de la parole de Dieu sur terre. Eh bien, il y a ensuite deuxième catégorie, Israël, symbolisé par le personnage de Yehoshua, et également les autres nations qui acceptèrent la Torah, disons tous les convertis qui arrivent et qui sont symbolisés par Yitro. Et on pourrait dire une quatrième catégorie, peut-être tous ceux qui n'ont pas l'entendement assez ouvert pour comprendre que Dieu est Dieu. Notons que Abraham et Sarah, un hé leur a été ajouté dans leur lettre, parce que Avram a reçu une lettre hé supplémentaire. Sarai a reçu une lettre hé. Donc nous avons deux hé. Yehoshua, c'était Oshua. Il a reçu un yod et il est devenu Yehoshua. Contre Yitro, Yéter a reçu un vav qui est venu à la fin de Yitro. Et qu'avons-nous là? Nous avons deux hé, un yod, un vav. Bien, ce sont les lettres du tétragramme, tout simplement. C'est les lettres du nom divin. Par cette jonction de toutes les dimensions existantes dans l'humanité, je dirais l'humanité qui veut comprendre, hein, bien sûr, ou qui comprend, pas l'humanité qui est indifférente à la parole de la Torah pour l'instant. Eh bien, par cette jonction de toutes les dimensions existantes dans l'humanité, le nom d'Hachem, le tétragramme, le nom d'Hachem en quatre lettres, a pu retrouver un siège sur terre alors qu'il l'avait perdu à cause de la faute originelle. Depuis l'histoire de ce fruit défendu. Et alors que cette jonction est réalisée avec Yitro, qui termine le nom divin en quelque sorte, il est possible de promulguer la parole divine et cette analyse des lettres du tétragramme, je la tiens d'un ouvrage du Rav Menachem Beros. Yitro, Moshe, deux personnages, eh bien, que se joue-t-il entre eux? Nous avons vu un certain nombre de dimensions dans leur relation. Eh bien, il y a autre chose. Il y a autre chose. Qu'a fait Yitro quand il s'est présenté à Moshe? Bon, Moshe connaissait son beau-père, il avait vécu longtemps avec lui. Et voilà Moshe qui arrive devant lui. Imaginez la situation. Et il lui dit, Annie, Otenkra Yitro, je suis ton beau-père Yitro. Bon, attendez, pourquoi? Ça n'a pas de sens. Pourquoi cette redondance? La Torah n'aime pas les redondances gratuites. Et là, on a beau-père. C'est un mot qui ne sert à rien. Moshe connaît son beau-père. Imaginez-vous aller chez quelqu'un de votre famille et vous lui dites, je suis ton oncle un tel, ou je suis ta tante un tel, ou je suis ton beau-père un tel. Non, attends, dis-moi, pour qui tu me prends? Tu crois que j'ai déjà tout oublié, je ne suis pas capable de te reconnaître. Bon, je sais que tu es un tel, d'accord, que tu dises ton nom, mais je sais très bien quelle est notre relation. Il savait que c'était son beau-père. Mais, comme toujours, dans la Torah, il y a plusieurs niveaux. On a lu, Ani Khotenra Yitro. Bien sûr, je suis ton beau-père Yitro. Mais regardons les initiales de ces mots et on comprend une autre strate de sens. Un remèze, comme on dit, une allusion. Ani commence par Aleph. Khotenra commence par Het. Yitro commence par Yod. Eh bien, on va lire. Ahi, ton frère. Donc il lui dit, certes, à un certain niveau, il dit, je suis ton beau-père Yitro, mais en même temps, il dit, je suis ton frère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Yitro, ce n'est pas le frère de Moshe. Eh bien, en fait, on est en train de parler tout autre chose. Il faut savoir qu'il y a un principe que nous enseignent nos maîtres, c'est ce qu'on appelle les Gilgoulim, le retour de certaines âmes qui n'ont pas suffisamment mérité et qui ont besoin de compléter un petit peu leur valise avec des bonnes choses pour pouvoir remonter là-haut. Eh bien, Yitro vient de dire, je suis ton frère. Mais quel frère? De quoi parle-t-on? En fait, Yitro, nous disent nos maîtres, c'est l'âme de Caïn, Caïn, comme on dit. Et on sait que Caïn a plutôt mal agi. Hein, c'est quand même le premier meurtrier de l'histoire. Il a tué son frère Evel, Abel, comme on dit en français. Et qui est Abel? C'est l'âme de Moshe. Moshe avait reçu l'âme de Evel. Donc, Evel, c'était le frère tué par Caïn. Caïn arrive et dit, je suis ton frère. Et parce que derrière Moshe, il a compris. Caïn, l'âme de Caïn, s'approchant de Moshe, s'approchait de l'âme de son frère Evel. Il l'avait assassiné, ceci dit. Et Caïn avait beaucoup de choses à se faire pardonner, et Evel aussi. Et c'est ce qui se joue dans la relation que nous avons dans cette paracha. Nous avons Caïn qui collabore avec Moshe sur des questions d'organisation de la justice. C'est un tikkoun pour lui. Alors que lorsque son offrande à Hachem avait été refusée, il s'était exprimé en disant, il n'y a ni jugement, ni juge. Il n'y a pas de justice, ni pour les justes, ni pour les innocents, ni pour les impies et les coupables. Donc, il a pris position contre la justice dans ce monde, eh bien, son Bilgoul, Yitro, va agir la main dans la main avec Moshe pour construire une structure de justice. C'est un tikkoun, c'est une réparation. Il y a aussi autre chose. Yitro a offert sa fille comme épouse à Moshe, alors qu'ils avaient été opposés. Il y a donc la réparation de cette faute. Et n'oublions pas que Yitro, Seudat Yitro, n'est-ce pas? C'est la grande fête que connaissent bien les Maghrébins de l'Est, notamment les Tunisiens, mais aussi dans la région de Beaune, en Algérie, ils ont fêté cette fête de Seudat Yitro. C'est la fête des petits garçons. Hein, autant pour les filles, c'est. C'est Rosh Chodesh El Bnat au moment de Hanouka que l'on fête les filles, eh bien, les petits garçons sont fêtés à cette époque-là, ce jeudi de cette semaine, parce qu'on lit, on étudie, c'est le moment où on étudie les 10 commandements. Bon, j'ai lu quelque part que quelqu'un disait que dans le monde, les juifs tunisiens, bon, je parlais, il était tunisien, les juifs tunisiens peuvent faire ce qu'ils veulent. Si la vie les transporte un peu loin de ceci ou cela, mais c'est toujours des juifs de Sordat Yitro ou de Rosh Chodesh El Bnat. C'est quelque chose de plus profond encore peut-être que juif de Kippour, comme on dit. En tout cas, Ici, nous voyons une séouda, une réception, un sacrifice par un repas. Ce repas important qu'a offert Yitro à Moshe et à beaucoup de personnes du Ram Israël, c'était un tikkoun du sacrifice qu'il avait mal fait, à Hachem en tant que Caïn. Et au cours de ce festin, Moshe en personne a servi les convives. Il aurait pu dire, ah, c'est pas ma fête, hein, débrouille-toi, écoute, c'est toi qui as invité, hein. Moi je m'assois et j'attends que tu me reçoives. Pas du tout. Il s'est levé, il a servi, etc. Il a fait lui aussi un tikkoun, car il avait aussi à se faire des reproches en tant que Evel, car Evel avait eu un orgueil quand son sacrifice avait été accepté, pas celui de Caïn. Et puis en même temps, Evel avait refusé que sa sœur jumelle épouse Caïn, parce que on sait bien, il y avait les trois frères, enfin il y avait les frères Hébel et Caïn, mais chacun était né avec des jumelles, sinon l'humanité n'aurait pas pu se développer, hein, s'il n'y avait que deux garçons sur Terre. Et c'est comme ça qu'Hébel a dit non, 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 tu n'épouseras pas mes sœurs jumelles. Et par orgueil, puisque ton sacrifice n'est même pas accepté, etc. Donc il a empêché de la sorte une possible amélioration du comportement de Caïn grâce à l'influence de son épouse. Car on le sait bien, les hommes ne sont pas grand-chose sans l'influence de leurs épouses. Eh bien, c'était là, il a empêché, en quelque sorte, il a empêché que cette bonne influence se développe chez Caïn. Et donc il a fait ici, Moshe aussi, son tikkoun de cet orgueil-là, en allant servir les convives. Il y a aussi une rétribution, puisque on peut se poser la question, excusez-moi, j'efface ce petit rappel qui me dit que tout s'interrompra dans 10 minutes maximum. Donc, on évoque Caïn et Evel. On évoque le premier crime de l'humanité. Et on se dit, quelle a été la rétribution pour Caïn? Quelle a été la rétribution pour Evel? Apparemment, la réponse est dure. Evel est assassiné, il n'a aucune descendance, il ne laisse derrière lui aucune œuvre significative en dehors du sacrifice qu'il a offert et qui a été accepté. Et il n'a pas même des enfants qui pourraient le faire bénéficier de leur propre mérite. Bon, alors qu'au contraire, Caïn, eh bien, il a tué. Il a fait un sacrifice minable et il est quand même extrêmement récompensé, puisque eh bien, il a été gratifié d'une descendance abondante, puissante. Lui-même a participé à la construction d'une ville d'un de ses descendants et à la septième génération, celle de Toubal-Caïn, ils ont maîtrisé, ses descendants, la métallurgie du bronze et même du fer. Mais après le déluge, qu'est-il resté de tous ces gens-là? Non méritants, ils ont été détruits. Donc, il a été rétribué, peut-on dire, de ce qu'il n'avait pas fait, et alors que Hevel n'a pas été rétribué de ce qu'il avait fait. En fait, allons plus loin. Lorsque Hava, Ève, a donné un troisième fils à Adam, ils l'ont appelé Cheth. Et l'exclamation de joie de la maman peut nous surprendre. Parce qu'elle a dit que Hachem lui a donné un autre fils à la place de Evel. À la place, est-il possible pour une mère, pour un père, de remplacer un enfant décédé? C'est impossible. Est-il possible d'être consolé de la mort d'un enfant? Non. Quand bien même il aurait un enfant après, chaque enfant est unique, personne n'a les qualités de l'enfant disparu. Comment pourrait-il donc être Adam et Chava consolés? On va très vite à la solution. L'âme de Evel est revenue dans le corps de Cheth. Et c'est ça la raison de la consolation de ses parents. Parce qu'ils ont compris que l'âme de leur fils, Evel, est revenue sur terre. Donc, nous voyons. On parlait de rétribution. On disait, Evel n'a eu aucune rétribution. Certes, mais il l'a eu autrement, par la, je dirais, par le mérite de Cheth qui a son âme. Donc, et également, Cheth, on va le retrouver en Moshe, parce que Moshe a aussi, on a dit qu'il avait l'âme de Hevel, mais il avait aussi l'âme de Cheth. D'ailleurs, regardez le mot Moshe, on a le M, le mème de Moshe lui-même, bien sûr, il avait son âme à lui, mais il y avait aussi l'âme de la deuxième lettre Shin, c'est Cheth, et la troisième lettre, c'est He, Hevel. Donc, on voit que Moshe a ces trois âmes, oh, c'est la même âme en fait. Donc, ces remarques nous font comprendre que quand on dit la bénédiction d'Ayan à Emet lorsque malheureusement il arrive une perte dans une famille, eh bien, certains faits peuvent être très douloureux. Et ici, on voit que la prospérité d'un homme ayant fait peu de cas du service divin, Caïn, et au contraire la fin tragique d'un homme méritant Hevel, à y regarder de plus près, on se rend compte que Caïn et sa descendance n'ont obtenu qu'une éphémère rétribution en ce monde. À l'inverse, lorsqu'il y a un départ qui fait beaucoup de peine aux familles, eh bien, on se rend compte que Hevel, qui est parti et on croyait que, etc., etc., eh bien, toute la spiritualité issue de la Torah lui est rattachée, puisque de lui est venu Moshe. Et ces quelques mots pourront peut-être apporter quelques consolations à tous ceux qui sont placés devant l'insupportable disparition d'un être cher. Nous ne sommes pas en mesure de comprendre le projet divin, surtout lorsqu'il passe par une douloureuse disparition. Mais ce cas de l'inestimable rétribution de Hevel, alors qu'on aurait pu croire qu'il a tout perdu, eh bien, nous font entrevoir d'autres perspectives.